Vous écoutez Radio B, la chronique sportive de l'Office municipal des sports de Bourg-en-Bresse.
Bonjour à toutes et tous, auditrices, auditeurs de Radio B, la radio qui bouge à Bourg-en-Bresse. Alors comme vous l'entendez, c'est un chroniqueur enrhumé qui reçoit aujourd'hui un club burgien d'escalade, les Trois Mousquetons, représentés par Philippe Barbet, son président. Bonjour Philippe.
Bonjour Michel, bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir invités à la Radio B.
On est là pour ça.
Merci.
Alors bon, là on va parler d'escalade. Donc c'est une histoire qui a priori est entamée dans les années 1900-1949. Tu vas peut-être pouvoir développer un peu.
Oui. Alors, je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'histoire de l'escalade, mais bon, je peux bien faire dans les grandes lignes. Bon, je pense que l'escalade, elle vient de l'alpinisme de toute façon, fin du 19e siècle. Bon, il y a bien des montagnes déjà qui ont été gravies. Mais il leur faut affronter quand même des passages, des difficultés un peu plus grandes que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Alors les alpinistes commencent à s'entraîner à la Varappe, quoi. Bon, la Varappe, c'est un nom qui vient des couloirs rocheux sur le mont Salève, en Haute-Savoie, où les alpinistes, bien sûr, s'entraînent. Entraînement, ça veut dire aussi réussir des passages de plus en plus difficiles. Donc, des niveaux de difficultés différents, suivant les voies, d'où l'existence de cotations.
Attendez. Voilà, c'est là que rentrent les fameux 1, A, B, et ainsi de suite.
Quoi. Et en France, c'est plutôt 4, 5.
Le plus bas, c'est quoi c'est...
Bah, aujourd'hui, sur l'escalade, c'est 4.
C'est 4, voilà.
3, voilà. C'est...
4, il faut déjà être encordé, ça nécessite déjà une sécurité.
C'est exact, oui, c'est ça.
Alors, la première fédération, d'après mes renseignements, qui a été une fédération internationale des associations d'alpinistes, ça date de 1932 à peu près.
Oui, c'est ça, oui. Donc à cette époque, enfin, la progression de la discipline d'escalade concerne de plus en plus de monde, mais quand même, ça reste dans le domaine de l'alpinisme, quand même. Par contre, c'est le commencement de l'évolution du matériel. Les précurseurs sont Pierre Alain, avec la gomme chaussure, Ricardo Cassin, qui a fait beaucoup de choses, comme les mousquetons en 1930. Puis c'est l'inventeur aussi du fameux descendeur de 8 que tout le monde a utilisé pendant longtemps.
Ouais, c'est une époque où il n'y avait pas de baudrier, à l'époque.
Hein. Ah non, pas de baudrier. Encore, on se faisait à la taille et l'assurage à l'épaule.
J'ai connu ça, moi, au loisir club des jeunes. Donc, dans les années 67-68, on allait à la Roche de Solutré. Ah, et effectivement, à l'époque, on s'attachait à la ceinture. Quoi. On faisait, je ne sais plus quoi, un nœud, je ne sais plus trop comment.
Les baudriers sont arrivés bien plus tard.
Ouais, hein. Le gars qui assurait en haut de la falaise, c'était à l'épaule. Quoi.
Ouais.
Alors la fédération, elle est arrivée plus tard, la fédération française de montagne et d'escalade, vers les 1940, par là.
Oui, c'est ça, dans ces eaux-là. C'est la fédé délégataire, d'accord. C'est le gouvernement qui l'a mise en place. Elle réunit plusieurs disciplines, l'escalade, le canyoning, la raquette et tout ce qui est montagne, ski alpin, rando. Et puis, il faut se dire une chose, c'est qu'à la suite de la guerre, c'est l'arrivée des fibres synthétiques qui commence à être travaillé. C'est l'époque de la chaussure Vibram, de la Napurna en 50, des fameux Lachenal, De Maison, des Messner, des Bonatti, enfin les grands noms de l'alpinisme quoi, du moment.
C'est
aussi.
Ce qu'on avait, nous, on avait des chaussures De Maison.
C'est ça, c'est ça.
Qu'on achetait chez Bennett Sport à Bourg-en-Bresse. Toute une époque, hein.
Oui, ça c'était en France. Par contre, du côté derrière de l'Atlantique, là-bas, les Américains, ils sont rentrés quand même dans la danse des escalades modernes. De 1950 à 1980, ils créent des salles, ils équipent des falaises prodigieuses, telles Yosemite, qui est bien connue. Et puis, on parlait de chaussons, de matériel, les chaussons d'escalade aussi ont apparu en 1948. Et puis, dans la décennie 60, c'est les baudriers et puis le fameux 8 qui vient compléter la panoplie des grimpeurs. Quoi.
Oui, je me rappelle que ces fameuses chaussures de maison, là, puisque c'est ce qu'on utilisait, c'était raide. Hein, c'était... fallait des prises quand même bien établies, quoi, bien visibles pour poser le pied dessus. Quoi.
Oui, mais du coup, c'est surtout la gomme qui était intéressante parce que du coup, elle adhérait bien au rocher. Ouais. Et c'est ça aussi qui a fait un peu la révolution aussi.
Par le chausson, la souplesse du chausson.
Ouais. 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 Et la gomme tendre aussi, ça permet d'aller sur des toutes petites prises. Et c'est vraiment, ça a été vraiment une...
Or, ça tombe bien parce qu'effectivement, 1980-90, là, c'est le lancement de l'escalade avec ce fameux film.
Ah ouais. Oui, c'est l'escalade en France qui attaque, là. C'est le film de Patrick Hellinger, La vie au bout des doigts, que vous pouvez regarder sur Internet aussi.
On le retrouve encore.
Alors, lui, il passe en 1982 à la télévision française, et là, ça a explosé, quoi, en France. Quand on a vu ce gars-là, torse nu, grimper tout
sur
seul...
Sur les falaises du Vercors, là. Du Verdon.
C'est exceptionnel, exceptionnel.
C'est un cerveau, quoi.
Disons que c'est un vrai athlète. Donc, du coup, on voit un petit peu ses entraînements.
Ses entraînements dans son chalet, là.
Ouais.
C'est inimaginable.
Et puis, à l'extérieur, il fait quand même une traction sur le petit doigt.
Absolument.
C'est impressionnant. Ouais.
Alors, des compétitions, bien sûr, liées à l'explosion.
Ouais, donc c'est venu un peu plus tard. La première compétition, c'était en 85. En Italie, et puis il y a eu la Coupe du Monde qui a commencé en 91 à Francfort. Mmh. Et là, les Français sont en haut de l'affiche.
Je reviens sur les... On parle de Patrick. Mais d'Estivelle, c'était une femme déjà à l'époque, non?
Ah oui.
Catherine d'Estivelle, il me semble.
Catherine d'Estivelle, c'était formidable. Alors, c'était un trio, à peu près. Il y avait Linger, ouais. Béraud, d'Estivelle, tous les trois. Ils ont écumé toutes les belles falaises en France. Et d'Estivelle, en 85, je crois que c'était la première femme à franchir un 8. Ouais, un 8A, quoi. C'est vraiment... Une sacrée dame. Nous, on l'a eu au 20e anniversaire du club.
Elle est venue à Bourg
et elle nous a présenté. Mais fantastique, c'est une dame fantastique. Ouais.
Alors, en termes de difficultés, c'est l'escalade après. Hein.
Oui, alors après, du coup, on parle de difficultés. Alors, la difficulté, elle a vraiment augmenté d'un coup. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais on a un niveau, donc ce que je disais tout à l'heure, en France, on fait 4, 5, 6, 7, 8, maintenant 9. Mais en tout cas, à l'époque, en 72, on commençait à faire le niveau 7. Et le niveau 7, c'était déjà un bon niveau d'expert. Et en 79, on est déjà passé au niveau 8, quoi. Ça commence à être des gars qui...
Je me rappelle, le Piton de Solutré, c'était 5, il me semble, non?
Oui, alors, oui, ben ça, c'est pas...
Pour nous, c'était déjà costaud.
Oui, surtout, mal chaussé,
voilà,
équipé, c'est pas déjà ça.
On n'était pas fiers.
Non, c'est sûr. Et puis, à l'époque d'Estivelle, aussi après, il y a eu Isabelle Pâtissier, qui a fait pas mal pour l'escalade libre. Puis je voudrais ajuster juste une grande dame américaine, Lynn Hill, qui en 93, elle a passé une voie de 1000 mètres, d'accord ? Elle a fait 34 longueurs au Yosemite, la voie s'appelait The Nose, en libre, avec des passages de 8, quoi. C'était exceptionnel, quoi. C'est la première fois que ça se faisait. Et c'était vraiment une dame, parce que...
Le plus jeune grimpeur, là... À 13 ans, là, qui franchit du 9, c'est ça?
Ouais, c'est un certain Adam Ondra, là. Ouais, 9 degrés. Bah, le gars, il était entraîné tout petit. C'est quand même incroyable. Incroyable. Après, il faut rajouter que la discipline a intégré aussi, en 2020, les Jeux Olympiques à Tokyo. Donc, Situs, Altus, Fortus, c'est la devise. Plus vite, plus haut, plus fort. Donc, l'escalade, aujourd'hui, au JO, c'est 3 épreuves. Une épreuve sur la vitesse, sur 15 mètres, la difficulté sur à peu près 12 mètres avec un développé de 15 mètres, et puis le bloc, dont on parlera peut-être tout à l'heure, autour de 4 mètres, 4 mètres 50. Quoi. Et je crois que dernièrement, un des frères Maouet a été sélectionné pour le JO de Paris.
On va peut-être revenir un peu sur terre, là.
Ouais, t'as raison.
ou tout du moins vers nos parois à nous. Moi j'aimerais bien quelques termes là pour se familiariser. Tu nous parles d'escalade, de varap, de voie, de bloc, de cotation. Alors comment on définit tout ça un petit peu?
Ouais, alors bon, la varap, on va parler un petit peu tout à l'heure, mais la varap, elle se définit comme de l'escalade pour l'alpinisme. en montagne. D'accord, c'est cette partie-là. Donc, le but est un peu différent qu'avec l'escalade. L'escalade n'a pas l'objectif d'arriver à un sommet d'altitude. C'est vraiment une performance sur des dalles de rochers, quoi. Par contre, la varap, effectivement, c'est vraiment le besoin de grimper pour aller jusqu'en haut de la montagne. C'est vraiment.
C'est ça.
Tu parlais du bloc. Donc, je crois que le bloc est arrivé à peu près dans les décennies 90. Là. C'est une paroi dont je parlais tout à l'heure pour la JO. Pour les JO, c'est autour de 4 mètres, 4 mètres 50 de haut. Pas besoin de matériel, sauf des tapis, hein, des tapis de sol, parce que si jamais on tombe. Et puis, c'est l'escalade solo. Donc, avec peu de mouvements, mais avec des mouvements compliqués, assez durs à maintenir. C'est quand même pas simple. Mais nous en avons un de petits blocs là, au gymnase Saint-Roch. Quoi. Et puis, il y a des rochers mythiques que tout le monde connaît, les blocs de Fontainebleau. Mmh. Et aujourd'hui, il y a plein de salles privées qui se sont montées justement partout en France pour faire du bloc. Et ça plaît quand même pas mal aux nouvelles générations de grimpeurs, quand même. Ouais.
Et c'est là que donc, les voiles sont matérialisées par des prises de couleurs, non ?
Alors oui, toujours. Mmh. Ouais, toujours. Donc, c'est des structures artificielles, hein, puisqu'on est en salle. Donc, les voies, c'est matérialisé par des prises de couleurs. Ça permet de guider dans la difficulté. Et puis, dans un couloir, on peut mettre au moins plusieurs voies.
Bon, et bon. Tout est évolutif, on peut modifier le parcours.
Et on modifie.
Ouais. Ouais, alors on modifie. Il suffit de revisser plus loin ou de, je sais pas.
Ouais, ouais.
Ou clamper, je sais pas comment.
Ouais. C'est ça, on revisse les vis régulièrement, on démonte tout, on nettoie les prises et on les remet suivant différentes voies qu'on veut faire, différentes cotations de différentes difficultés. Voilà. Mais ça, c'est pour l'intérieur. À l'extérieur, forcément, un couloir à l'extérieur correspond à une voie, à une cotation. De toute façon, on ne peut pas en faire plusieurs à l'extérieur.
Alors, quand on arrive au club, j'ai l'impression qu'on est un peu perdu d'entendre tous ces termes et tout. Donc, je suppose que quand vous accueillez, là, vous donnez quelques informations.
Oui, bien sûr. On est là déjà là pour ça. C'est important que les gens sachent quel environnement, les bons noms, les bons termes.
Les termes à retenir.
À retenir. Donc, effectivement, ça, nous, à la première séance, nous donnons à nos adhérents toutes les informations. Alors, informations sur les noms, sur les mots, et puis aussi sur le matériel, bien sûr.
Le matériel, oui, parce qu'il n'y a pas. Il y a toutes les histoires de nœuds, les crochetages avec les mousquetons.
C'est ça, toutes les façons de faire pour pouvoir grimper.
Si on met une petite sangle, si on n'en met pas, c'est toutes ces choses-là.
Ouais. Après, il y a toute l'appellation. Par exemple, sur un baudrier, il y a plusieurs éléments sur un baudrier. Donc, chacun a son appellation. Et du coup, il faut.
Alors justement, vous, aux trois mousquetons, comment vous définissez l'escalade ?
Alors nous, on définit ça comme un sport collectif à effort individuel. C'est un sport très complet, musculairement. Alors, c'est un sport d'équilibre, de précision, de concentration et d'effort, mais aussi d'échange avec son partenaire et de développement de la confiance, du partage. Et puis aussi toutes les valeurs liées à la nature, à l'environnement.
Ah ouais, c'est très très complet, très large quoi.
Oui, on essaye d'être. Enfin, pour nous, c'est très large. C'est vrai que c'est un des sports les plus complets en termes de musculature. Mais après, c'est aussi un sport dangereux. Donc, il faut que les gens aient conscience de ça.
Celui qui assure, tout ça. Quoi.
Et voilà. Ouais. Et donc, du coup, on a vraiment besoin de binômes qui se fassent confiance, que celui qui grimpe se pose pas trop de questions et celui du bas fasse très attention.
Alors, le club est arrivé à Bourg dans quelles années à peu près ?
Alors, du coup, dans sa forme actuelle, il a été créé en 93. Mais sa réelle création, il s'appelait le club d'escalade privé de Bourg-en-Bresse, sportif de Bourg-en-Bresse. Et ça, c'était fait par 4 jeunes Bressans en 86.
Ouais. Alors, bien sûr. Vous faites la promotion de cette discipline pour permettre une accessibilité facile, un sport de loisir. Et vous êtes ouvert à tous aussi. Régulièrement, vous recevez des gens qui ont des difficultés.
Tout à fait. Ouais, nous encadrons régulièrement des personnes à mobilité réduite, des difficultés de coordination, des autistes. Nous avons même eu une personne aveugle. Enfin, grimper, c'est une chose, mais pour nous, il faut savoir que aussi assurer, c'est important. Donc, on est là aussi pour enseigner aux gens, aux enfants, la responsabilité, la réciprocité.
Et puis vous avez fait beaucoup de promotions en contribuant au mur de Saint-Denis-les-Bourgs, enfin faire le CFA des Vennes. Enfin, vous avez mis votre patte un petit peu partout. Vous avez aidé un petit peu de tous les côtés à promouvoir. Là aujourd'hui, donc vous êtes sur Saint-Roch, hein, c'est ça?
Oui, on est toujours sur Saint-Roch. C'est le gymnase principal. Il y a d'autres gymnases. Hein. Il y a celui de Claude Perrault, je crois, qui a un petit mur, mais c'est pas très intéressant pour nous.
Alors on accède chez vous avec une adhésion,
Oui. Alors du coup, nous, on est à la FSGT. On a arrêté avec la FFME, d'accord, il y a 5 ans à peu près. Et du coup, la FSGT nous permet déjà de faire des adhésions à des coûts moindres, d'accord. On est à peu près à 100 euros. Et puis, avec la licence comprise. Et puis aussi, il nous permet de faire des licences de 4 mois. Donc, c'est au moins 60 euros, pas plus, quoi. Et puis, nous prêtons tout le matériel, sauf les chaussons, bien sûr.
Vous avez pas mal de créneaux, donc les mardis, les jeudis, le samedi.
Oui, c'est ça. Entre les enfants, les adultes, on a 3 créneaux enfants et puis 3 créneaux adultes.
Puis des activités extérieures, bien sûr.
Ah ben oui, une sortie par mois. Et puis après, vers les beaux jours, on va faire les entraînements directement à l'extérieur, à Cuiron, à Neuville ou sur d'autres sites. Puis on a des week-ends falaises, grande voie, quoi. Ça, c'est des...
Et puis des manifestations d'ampleur. Vous avez eu la nuit de la grimpe, là, le 10.
Oui, la nuit de la grimpe aussi. Mais on a les portes ouvertes. On organise des choses comme des bienvenues, des trucs comme ça pour les nouveaux adhérents. Mais effectivement, on a la nuit de la grimpe là, qui s'est super bien passée.
Belle mixité au club aussi.
Oui.
Une présence féminine égale à peu près.
Oui, c'est ça. Alors du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'organiser le samedi 13 mars une journée que pour les femmes.
Voilà.
On l'a déjà fait l'année dernière.
Ça s'est déjà fait, hein, oui.
On l'a déjà fait l'année dernière. Ouais, ça a été assez formidable, le nombre de personnes qui sont venues. Et donc l'objectif, c'est d'offrir aux femmes l'opportunité de pratiquer un sport complet, donc toute l'année, sans véritable contrainte, quoi. Donc et puis qu'elles s'octroient une soirée pour elles. Voilà. Pour venir grimper.
Tout va être mis en œuvre pour qu'elle soit libre. C'est-à-dire qu'il y aura un gardiennage, on va le dire comme ça, un petit parc enfant, de manière à ce qu'elle soit détachée un peu de leurs tâches familiales.
C'est ça.
Pour se consacrer uniquement à l'activité.
C'est exactement ça. C'est vraiment l'idée. Et puis nos adhérentes vont encadrer les femmes. Et puis nos adhérents, les hommes, viendront encadrer les enfants. C'est eux qui s'occupent des mômes. Et on aura une structure gonflable.
De ces manifestations, alors on vous retrouve où? Alors, au gymnase?
Alors, bien sûr.
Lors des entraînements?
C'est ça. On se voit au niveau des entraînements. Alors, surtout au niveau des entraînements adultes, parce qu'on n'a pas bien le temps au niveau des enfants. Et puis, on a un site internet, www.3mousqueton.com.
Et bien sûr, celui de l'OMS.
Et puis celui de l'OMS, forcément. Et puis on a une boîte aux lettres à la MCC,
voilà.
La Maison Citoyenne.
Eh bien écoute, notre échange s'arrête ici. Ça a été très sympa de participer à cette chronique. À tout bientôt. Alors, je ne dis pas sur les rochers, parce que bon.
peut-être en salle aussi. En tout cas, merci bien de nous avoir invités.
Très bonne saison.
Merci, au revoir.
Vous écoutez Radio B, la chronique sportive de l'Office municipal des sports de Bourg-en-Bresse.